Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Johann, notre étude sur l'évangile de Marc. Sandre va d'ailleurs nous lire à présent Marc chapitre 5, versets 21 à 24 et 35 à 43.
Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment.
« Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. »
Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire
« Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?»
Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors, il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille.
Merci Sandra et bienvenue à Johann. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais faire un résumé des incidents que Marc a choisi d'inclure dans cette partie de l'évangile que nous étudions. À la fin du chapitre 4, Jésus et ses disciples naviguaient sur le lac de Galilée, lorsqu'une tempête d'une rare violence fit rage. C'est alors que Jésus d'un seul mot apaisa les éléments déchaînés. En cet instant, Jésus prouva que la nature lui est soumise et qu'elle lui obéissait. Puis au début du chapitre 5, Jésus rencontra un homme qui vivait sous l'emprise de nombreux esprits mauvais. Jésus délivra cet homme, il lui redonna sa raison et lui fit découvrir la paix intérieure, lui permettant de poursuivre une vie normale. Une fois de plus, nous comprenons que Jésus est plus fort que les esprits du mal et qu'il peut les vaincre et les soumettre à sa volonté. Enfin, lors de notre dernière émission, nous avons rencontré une femme rendue impure par les constantes pertes de sang qui la rendaient malade depuis de longues années. Jésus, en la guérissant, la purifia. Il prouva par cette guérison qu'il avait l'autorité et le pouvoir de purifier quiconque de tout ce qui le sépare de Dieu.
Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre cas désespéré, celui d'une petite fille sur le point de mourir.
En effet, et Jésus va venir à son secours et lui redonner la vie.
Et que devons-nous en conclure?
Jésus nous rend témoin qu'il est plus fort que la mort. Elle n'a aucun pouvoir sur lui, il peut la vaincre.
Mais revenons sur les détails de ce récit. Jairus, un chef religieux, vint chercher Jésus car sa fille était gravement malade. Toutefois, en se rendant chez lui, Jésus fut arrêté et retardé par la femme atteinte d'hémorragie qu'il guérit. C'est alors qu'un messager arriva de la maison de Jairus pour lui annoncer que sa fille était morte et qu'il n'était donc plus nécessaire d'importuner le maître.
En effet, et c'est à ce moment-là que Jésus dit à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement. »
Expliquez-nous le sens de ces paroles.
Les thèmes de la peur et de la foi reviennent souvent dans cette partie de l'évangile de Marc. Or, tous ces incidents s'enchaînant les uns aux autres prouvent que lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, il nous aide à vaincre nos peurs. À l'annonce du décès de sa fille, Jaïrus se trouve confronté au pire. Son monde bascule. Il est plongé dans le deuil. Cependant, par ses paroles rassurantes, Jésus lui ouvre la porte à d'autres possibilités. Il lui suggère qu'il y a une issue. Il ne faut pas avoir peur, mais plutôt lui faire confiance.
Puis, arrivés à la maison de Jaïrus, ils sont accueillis par des gens éplorés, plongés dans la souffrance à cause du deuil. Oh, voici qu'à ce moment-là, Jésus prononce des paroles surprenantes. L'enfant n'est pas mort, elle est seulement endormie. Alors, cette petite fille, était-elle morte après tout?
Il existe deux interprétations possibles. Tout d'abord, il est possible que cette petite fille n'était pas morte, mais qu'elle était seulement tombée dans un coma ou quelque chose de semblable, auquel cas sa famille se serait trompée. Je trouve cette possibilité peu probable. Elle n'est pas impossible. Mais je pense qu'en règle générale, les gens savent identifier la mort quand elle est présente.
Si vous excluez donc cette interprétation, quelle est l'autre? Et pourquoi Jésus dit-elle qu'elle n'est pas morte, mais seulement endormie?
Le mot « mort » implique un état définitif. En règle générale, personne ne revient de cet état. On ne peut donc rien entreprendre pour sauver une personne morte. Toutefois, Jésus sait qu'il va interrompre et faire basculer le cours normal des événements, qu'il va changer la conception humaine des choses. En effet, cette petite fille est morte, mais pour Jésus, ce n'est pas la fin. Le mot « endormi » qu'il utilise implique que tôt ou tard, elle se réveillera. Le Seigneur apportait cet espoir, cette vision aux gens bouleversés. Miracle qui d'ailleurs se réalisa peu de temps après, car cette petite fille se leva et reprit une activité normale. En employant le mot « endormi », Jésus disait en fait que la vie de cet enfant n'était pas terminée, même si d'un point de vue médical, elle était morte.
Ce que Jésus accomplit pour cette famille est incroyable. Mais qu'en est-il de la foi de Jaïrus dans tout cela?
Le messager venu prévenir Jaïrus du décès de sa fille l'encouragea à laisser Jésus partir et lui conseilla de ne plus déranger le maître. Jésus, quant à lui, suggéra à Jaïrus qu'une autre issue pourrait se mettre en place, si seulement il le laissait agir. Alors qu'il était plongé dans la détresse, Jaïrus se trouva confronté à un choix, soit de rester incrédule, auquel cas il aurait renvoyé Jésus et enterré sa fille, soit de croire et de placer sa confiance au Seigneur. Ce qu'il fit, car au cœur de l'épreuve, il permit à Jésus d'entrer dans l'intimité de sa famille. Or, cette foi porta du fruit, car Jésus vint au secours de l'enfant et de toute sa famille. Jaïrus crut suffisamment pour laisser Jésus agir et prouver que véritablement, il est le maître de la mort.
Mais que devons-nous retenir de ce récit, car des miracles de ce genre sont extrêmement rares de nos jours?
Le but de ce récit est de prouver que Jésus est bien le maître de la mort et de la vie. Jésus peut vaincre la mort. Et aujourd'hui, nous le savons, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il a promis de ressusciter tous ceux qui croient en lui. En redonnant la vie à la fille de Jaïrus, Jésus nous rappelle simplement que la mort n'est pas la fin de toute chose, mais que par la foi en lui, il existe une suite heureuse. En fait, la fille de Jaïrus allait revivre dans un monde difficile, mais pour mourir à nouveau. Toutefois, la résurrection promise par Jésus est tout à fait différente, car il donnera la vie éternelle à quiconque croit en lui. Et plus jamais nous ne mourrons. De surcroît, cette vie-là ne sera plus gâchée par les maux et les malheurs que nous rencontrons au quotidien. Ce que Jésus fit pour cette jeune fille est merveilleux, mais la résurrection d'entre les morts que Jésus accordera à tous ceux qui croient en lui sera plus merveilleuse encore.
Et cette espérance est sûre et certaine car Jésus a prouvé qu'il est le maître de la mort et de la vie. Nos discussions sur l'évangile de Marc s'achèvent ici pour l'instant, mais nous les reprendrons dans l'avenir. En attendant, nous remercions Johan pour sa participation tout au long de cette série.
Merci Yann, et au revoir à tous.
À présent, nous allons commencer notre courte méditation biblique.
Elle s'inspire du psaume 84. Sandra va nous lire les versets 10 à 13 de ce psaume. Ensuite, notre invité Étienne nous fera part de ses réflexions.
Ô Dieu qui nous protège, un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi.
Quel est votre endroit favori? Le lieu où vous êtes le plus à l'aise et éprouvez beaucoup de plaisir. L'environnement où vous vous sentez en sécurité, aimé et épanoui. Ce psaume était chanté par les pèlerins en route pour célébrer l'Éternel dans le temple de Jérusalem. Il traduit leur bonheur alors qu'ils se réunissaient en ce lieu pour célébrer Dieu. L'auteur du psaume déclare « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Puis il ajoute « Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que demeurer sous les tentes des méchants ». Oui, le lieu préféré de l'auteur de ce psaume est bel et bien le temple de Jérusalem où il rencontrait Dieu de façon particulièrement proche et intense. Aujourd'hui, le temple à Jérusalem n'existe plus et nul n'a plus besoin d'entreprendre de longs pèlerinages pour s'y rendre. Le Nouveau Testament nous enseigne d'ailleurs que le temple de Dieu est dorénavant l'Église. Il ne s'agit pas là d'édifices ou de bâtiments religieux, mais du peuple de Dieu, des croyants réunis, animés par l'Esprit, pour adorer Jésus et se nourrir de lui. Les propos du psalmiste peuvent ainsi être traduits. Un jour passé avec mes frères et sœurs en Christ, en la présence de Dieu, vaut mieux que mille ailleurs. Mieux assister à un culte plutôt que de boire un coup avec des copains dans un bar. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments nous animent-ils? Être assis aux pieds de Jésus, n'est-ce pas ce qui nous comble le plus? Autrement dit, accordons-nous suffisamment de valeur à nos frères et sœurs et surtout à notre relation avec Dieu? Les paroles du psaume peuvent nous remettre en question et nous prions surtout pour qu'elles enflamment nos cœurs de ce désir merveilleux de demeurer en la présence de Dieu. Le psalmiste le déclare, cette vie orientée vers Dieu, imprégnée de sa présence, est la meilleure façon d'être heureux. Dieu est bienveillant, il est glorieux, il est puissant et fidèle. Il est notre soleil et notre bouclier. Avec lui, nous pouvons nous sentir en sécurité et en paix. Avec lui, nous éprouvons du plaisir, de la joie. Et nous pouvons vraiment nous épanouir.
Merci Étienne pour ces paroles qui orientent nos pensées vers celui qui est notre trésor le plus précieux.
Nos deux séries se terminent aujourd'hui et nous remercions nos deux invités, Johan et Étienne, pour leur participation enrichissante. Nous vous remercions également, chers amis auditeurs, pour votre écoute et souhaitons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.